Salut Jérôme, comment ça va?
Salut Jean-Philippe, ça va bien?
Et toi, content
de te retrouver.
Bah ouais, c'était bien les vacances?
Ouais, c'était bien, c'était frugal.
Frugal?
Oui, barbecue, aioli, tout ça quoi.
Ah, aioli,
ah, aioli, tu l'as, bien, tu vois, j'ai mis tout l'été à y penser, je me suis dit celle-là, je vais la sortir à Jean-Philippe.
Bon, on peut la faire du coup, on peut la lancer du coup cette nouvelle émission.
Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Philippe Clément et avec Jérôme Sorel en réalisation. Merci à lui. Bienvenue et bon retour sur Parlez-moi d'IA. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sous leurs aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques, toujours un peu techniques et pourquoi pas politiques. Cette semaine, nous allons essayer de mieux comprendre et de réduire l'impact environnemental de l'IA générative.
Cause commune, 93.1 FM.
Vous êtes bien sur Cause commune, la radio des possibles. Cause commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune-au-singulier.fm, sur la bande FM à Paris, sur le 93.1 et le DAB+, également en podcast sur votre plateforme préférée. Vos likes, étoiles, commentaires, c'est nos seules récompenses. Donc n'hésitez pas, en plus ça manipule les algorithmes et c'est cool de manipuler les algorithmes. N'hésitez pas si vous nous écoutez sur LinkedIn également à nous ajouter et à liker cet épisode.
Vous écoutez Parlez-moi d'IA.
Nous avons quasiment clôturé notre première saison avec la publication de la spec IA frugale de l'AFNOR. Bon, si vous n'avez pas écouté cet épisode, je peux vous le conseiller. Allez hop, une autopromotion dès le départ, on y va. L'impact du numérique commence à être bien documenté. On sait qu'il représente 4% des émissions mondiales. Alors en France, c'est un peu moins, 2,5% grâce à son mix énergétique et son énergie bas carbone. Mais c'est quand même globalement plus que l'aviation civile. Et puis c'est en forte croissance. En tout cas, au moment où c'était calculé, on disait que c'était plus 60% qui allait arriver en 2040. Pourquoi je vous dis au moment? Parce qu'en fait, tout a changé. Et ces chiffres ne sont plus vrais. Ces chiffres, c'était avant. C'était avant ChatGPT, c'était avant la vague des outils d'IA générative et qui vient exploser tous les records, tous les compteurs, en générant des petits chats roses sur la plage, en générant des funitudes. Funitudes, c'est en fait le mot que j'ai trouvé pour illustrer le cas présent, où c'est à la fois fun, mais c'est pour rendre fun des platitudes, juste parce qu'on a utilisé l'IA pour le faire, uniquement. Eh bien, un collectif s'est monté pour lutter contre ces funitudes, ou en tout cas pour mieux les comprendre, pour mieux les envisager, pour mieux les mesurer. Pour nous en faire prendre conscience et pour proposer des outils concrets qui viennent muscler l'aspect IA frugale. Ce collectif s'appelle GenAI Impact. Alors, je ne sais pas si ça se dit en anglais ou en français, ils vont nous le dire. Nous avons la chance d'avoir avec nous deux de ses membres qui viennent nous expliquer leurs objectifs et leurs combats. Bonjour Caroline Jean-Pierre et Samuel Rincé.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Bonjour.
Bonjour à vous. Alors Caroline, parlez-moi d'IA. Finalement, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est née l'idée de créer ce collectif spécifique? Alors il s'appelle comment? GenAI Impact, c'est ça?
GenAI Impact,
GenAI Impact.
Bon franglais.
Comment est venue l'idée de créer ce collectif?
Alors, à l'origine du projet, Samuel et moi, on avait tous les deux participé à l'écriture d'un livre blanc qui a été publié l'année dernière sur les enjeux de l'IA générative.
Pour Data for Good?
C'était pour l'association Data for Good.
Mais nous avons reçu le représentant de Data for Good pour ce livre blanc, dont Parlez-moi d'IA. Oui, tout à fait.
Et donc, une des recommandations sur le volet environnemental de ce livre blanc, c'était la nécessité justement de mesurer les impacts environnementaux de l'IA générative. GenAI Impact est né de l'idée de mettre en œuvre cette recommandation. Et donc, le projet, au départ, c'était un projet chez Data for Good qui a été porté par Samuel.
Et dans une des saisons des projets de Data for Good, c'est ça?
Exactement, dans la dernière saison d'accélération de Data for Good qui s'est déroulée en février dernier.
D'accord.
En 3 mois. Et j'ai accompagné Samuel sur ce projet. Et aujourd'hui, GenAI Impact, on est une association.
Ah, carrément, maintenant c'est une association. C'est plus qu'un projet, c'est une association. Et du coup, vous vous êtes donné quoi comme objectif pour ce projet-là, maintenant, globalement?
Donc, il y a deux volets sur ce projet. Il y a un volet qui consiste à développer une méthodologie pour évaluer les impacts. Et il y a un volet de mise en, en application de cette méthodologie via des outils qui sont proposés soit à des développeurs ou soit au grand public.
D'accord. Et donc, effectivement, c'est à la fois la méthodo et à la fois création d'outils pratiques pour que ça soit utilisable dans la vie courante des développeurs d'IA, quoi.
Exactement. Nous sommes des pragmatiques chez Gen AI Impact. Donc, on propose des solutions.
Samuel, du coup, pourquoi, en fait, tout d'un coup, c'est devenu urgent de traiter cette question de l'IA générative? Pourquoi, dans le monde d'avant, bon, c'était compliqué, l'impact du numérique, mais bon, on avait des méthodes pour y arriver. Pourquoi tout d'un coup, là, avec l'IA générative, il y a vraiment une prise de conscience et ce collectif a monté pour travailler sur le sujet?
Ben en fait, il y a plusieurs éléments. Le premier, ça va être l'échelle, en fait. C'est-à-dire que avec l'arrivée de ChatGPT, on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre de l'IA dans les mains de tout le monde, et donc à une très grande échelle. Et donc ces algorithmes, ils ont un impact. Ils ont un impact plus fort que les modèles traditionnels d'IA. Donc la différence entre IA générative et IA entre guillemets traditionnelle, c'est que ces modèles sont beaucoup plus gros.
Ouais.
Et ces modèles consomment beaucoup de ressources, donc beaucoup de GPU, les fameuses cartes qui permettent de les héberger.
À quel moment ils consomment ces ressources, du coup?
Alors, ils les consomment à la phase d'entraînement, c'est ce qu'on entend très souvent,
ouais.
Mais également à la phase d'usage. En fait, il se trouve que ces modèles nécessitent donc beaucoup de ressources et beaucoup de serveurs, de data centers pour pouvoir être hébergés et disponibles au plus grand nombre.
Et du coup, globalement, on le voit bien avec l'aspect IA frugale de l'AFNOR. Le moment crucial pour bien comprendre et pour bien définir finalement l'objet qu'on est en train de travailler, c'est le moment des définitions, justement. Et vous partez pas de rien en termes de définition par rapport à cette question-là. Vous vous appuyez déjà sur des premiers travaux. Il y a déjà eu, je crois savoir, des outils qui essayaient justement de mieux mesurer l'impact de l'IA générative.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un premier outil qui est aujourd'hui toujours un peu incubé à Data for Good, qui est Code Carbon.
Ouais.
C'est un outil qui permet en fait de mesurer la consommation énergétique et d'estimer les émissions CO2, donc les émissions carbone, d'un code, d'un modèle d'IA. Aujourd'hui, ce projet, il est toujours existant, il est toujours utile lorsqu'on fait tourner ses IA sur son serveur, sur son ordinateur, sur son smartphone.
D'accord, en local, quoi, sur sa propre machine.
C'est quand on est capable, en fait, de mesurer la consommation énergétique.
D'accord.
En revanche, ce que nous, on essaye de faire avec un outil qu'on a développé pendant la saison, qui s'appelle Ecologit, c'est d'adresser le cas où le modèle d'IA ne s'exécute pas en local sur sa machine, sur son serveur, lorsqu'il est dans le cloud, dans des data centers.
Et ça, comment vous arrivez? Enfin, c'est quoi vos références pour arriver à faire ces calculs-là, finalement?
Alors, on a plusieurs références. La première, ça va être un projet de Hugging Face qui s'appelle LLM Perf, Leaderboard. Ouais. Donc, c'est un projet de benchmarking. Donc, on va tester plusieurs modèles LLM open source et contrôler la consommation d'énergie en fonction de certains paramètres.
Donc, c'est Hugging Face qui héberge différents modèles open source sur sa plateforme, qui finalement, parce qu'elle maîtrise sa plateforme, mesure les performances ou en tout cas les consommations des différents...
Elle les mesure avec Code Carbon. Donc,
elle fait tourner Code Carbon sur ses propres serveurs, d'accord.
Tout à fait.
Mais du coup, elle mesure tous les modèles qu'elle héberge?
Alors, c'est les modèles open source et les modèles qui ont été soumis par la communauté. Donc, ça, c'est une petite portion, c'est une portion conséquente parce que Hugging Face a beaucoup de modèles.
Ouais.
Ça reste une portion petite des modèles parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de modèles propriétaires. Donc, les OpenAI, Anthropic, certains modèles de Mistral ne sont pas ouverts et donc ne sont pas testés par cette plateforme.
Et ça, quoi qu'il arrive pour l'instant, c'est des modèles qui sont inatteignables en termes de mesure.
Inatteignables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on les intègre, mais on les intègre en faisant des estimations, des
simulations,
hypothèses.
Ouais.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
On dit tel modèle a telle performance, on imagine à peu près son architecture, comment il fonctionne, et on estime les impacts. Mais la barre d'erreur, elle est forcément plus grosse quand on ne connaît pas le modèle et qu'on manque de transparence.
Et pour revenir à Hugging Face, pourquoi, du coup, ils se sont attardés que sur les modèles textuels? Pourquoi ils ne font que des modèles qui génèrent du texte ou qui travaillent avec du texte? Et pourquoi ils vont pas vers les mesures autour des modèles qui génèrent des images ou des vidéos, qui semblent quand même beaucoup plus gourmandes aussi, globalement? Pourquoi on ne sait pas encore faire cette mesure-là, en fait?
Alors, du côté de GainFace, donc le projet LLM Perf, c'est un, je pense, c'est un projet d'évaluation d'impact de LLM dans le cadre d'un outil qui développe, qui s'appelle Optimum. C'est tout à fait possible de reproduire ce genre d'expérience avec d'autres types de modèles, génération d'images, génération d'embedding, génération de vidéos. Quoique pour la vidéo, quand même, il y a beaucoup moins de modèles open source qui existent si on compare avec les autres tâches. Donc, c'est possible de reproduire ces résultats. Juste aujourd'hui, ça n'a pas encore été fait. En revanche, il y a des projets en cours à Boa Vista, à GainFace, qui sont d'aller créer ces fameuses databases d'impact de modèles, et donc de tout type de modèles, pas seulement l'IA générative d'ailleurs.
Vous citez Boa Vista, là, c'est une autre source de données. Qu'est-ce que c'est un autre projet finalement à côté de tout ça. Qu'est-ce que ça cherche à faire, Boa Vista?
Oui, tout à fait. Alors Boa Vista, c'est une association également française qui a un objectif, c'est de produire des méthodologies, des jeux de données, mais aussi des outils très proche de notre mission.
Ouais. Comment ça se différencie? C'est quoi la différence entre votre projet et le leur?
Là, ça va être plus généraliste sur l'impact de l'IT de manière générale. Donc, ouais. Comment j'estime l'impact d'un serveur qui va être dans un data center? Comment j'estime l'impact d'une application web? Donc, il va y avoir ces types de projets. Et en fait, le Gen AI Impact, c'est un peu né de la combinaison de ce qui a été étudié à Data for Good lors du livre blanc, ouais. Mais aussi des connaissances méthodologiques qui sont utilisées à Boa Vista. Et donc, on utilise des données Boa Vista, notamment sur l'impact de la fabrication des serveurs, des GPU. C'est des choses qui sont développées côté Boa Vista.
Des impacts environnementaux différents de ceux simplement de l'énergie?
C'est ça, oui. En fait, ce qui est souvent mal pris en compte dans le numérique, c'est qu'il n'y a pas uniquement que la consommation d'énergie et il n'y a pas uniquement que les émissions carbone. Il y a d'autres types d'impacts. Il va y avoir des impacts sur la consommation de ressources, de matières premières. Des impacts sur la consommation d'eau. Alors, à la fois quand on est dans un data center et qu'on refroidit des serveurs avec de l'eau, mais aussi lorsqu'on produit des puces, on consomme beaucoup d'eau. Et l'autre erreur, c'est de ne pas prendre en compte les impacts de la fabrication du matériel. C'est parce que ça a un coût de remplacer ces GPU tous les 2, 3, 4, 5 ans dans les data centers. Qu'est-ce qu'on fait des GPU utilisés? Est-ce qu'on les jette? Est-ce qu'ils se retrouvent dans l'océan, etc.?
Donc, ok, ça va plus loin que l'impact énergétique. Je comprends mieux. Caroline, on vient vers vous juste après la pause musicale. On a déjà bien posé finalement le premier objectif de votre collectif, qui est celui de mieux comprendre et de quantifier avec des aspects de compréhension des différents impacts. On va juste après la pause musicale parler du deuxième objectif, qui est la sensibilisation des utilisateurs. Je vous propose, après ces premiers partages, de prolonger un peu l'été avec le morceau Sacatella du groupe La Femme. Alors Sacatella, cela veut dire enlève-toi cette idée fixe de la tête. Ben, c'est exactement le contraire de ce qu'on veut faire aujourd'hui avec GenAI et l'IA génératif. On veut pouvoir effectivement continuer à regarder tout le temps comment ça tourne et ce que ça consomme. Buscando otra polla, eres amoroso y es la polla, pero te comerá como una chupacabra. Sácatela, 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 sácatela. No lo sabes, eres una pepita que pierde tu tiempo para nada. Sácatela de tu cabecita antes de volverte loquito. Y yo te digo,
es esta historia una broma, ayúdame a sacarla de mi cabeza.
Sácatela, 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 sácatela. Yo te lo digo, tío, tienes que olvidar a esta tía. Para los amores del mundo, de tu pobre corazón, de tu cordura. Sácatela.
Merci le groupe La Femme. Vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris. Toujours Parlez-moi d'IA. Toujours l'épisode consacré à la manière de prendre en compte concrètement l'impact de l'IA générative avec Caroline Jean-Pierre et Samuel Rincet du collectif Gen AI Impact. Je vais finir par arriver à le dire correctement à la fin de l'émission, je vous assure. On a parlé un peu de la première, en première partie finalement de à quel point c'est important de bien arriver à quantifier la problématique, à avoir les bonnes définitions, à avoir les bonnes données de référence. Vous me disiez en préparant cette émission, Samuel, que il y a aussi un élément qui est pas forcément pris en compte au-delà de l'entraînement général, au-delà des petits usages quotidiens. Il y a aussi l'usage qui est de plus en plus courant quand on utilise des RAG. On l'a vu dans cette émission, les RAG, c'est finalement les modèles auxquels on donne beaucoup de documents à manger pour qu'ils se spécialisent et pour qu'ils aient une réponse plus pointue. Là aussi, potentiellement, quand on utilise des RAG, quand on embed ces éléments-là et qu'on utilise des vecteurs et tout ça, là, il y a une consommation particulièrement forte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, comme si vous l'expliquiez à ma grand-mère, qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là quand on utilise des documents dans un modèle ?
Alors, sur le RAG, très simplement, on va essayer d'augmenter les capacités d'un modèle de langage pour qu'il puisse répondre de façon plus pertinente à une question qu'on aurait posée en utilisant des documents. Et en fait, par exemple, dans une entreprise, ça va être connecter tout son cloud, tous ses documents à son modèle de langage pour qu'il puisse répondre de manière personnalisée à une question qu'on pose. Ce qu'il va pouvoir consommer, par exemple, dans ce type d'architecture, c'est le fait de transformer ces documents en vecteurs, le fameux embedding. Ouais. Ici, si on a énormément, si on compte en millions le nombre de documents, potentiellement, ça a un coût, un impact assez important. D'autant plus, je rajoute peut-être l'anecdote, mais il y a quelques mois ou années de ça, OpenAI avait changé en l'espace de un mois à peine de modèle d'embedding. Et donc, on se retrouve plus ou moins du jour au lendemain, en tant qu'entreprise, des fois, à devoir tout faire repasser par la moulinette.
À tout devoir réentraîner, avec toute la consommation que ça génère derrière.
C'est ça. Donc, il n'y a pas forcément de prise en compte, même de la part des acteurs, d'un tel changement. Qu'est-ce que ça a comme impact potentiellement derrière
pour les autres ? Donc, c'est juste finalement dans l'acte de mieux entraîner le modèle qu'on a aussi une forte consommation à ce moment-là qu'il faut pas oublier. Caroline, on va parler un peu du collectif. Donc ce collectif, vous nous le disiez, il est né au moment du projet Data for Good du même nom. Aujourd'hui, il y a combien de personnes dans ce collectif ? Combien vous êtes autour de la table ? Alors là, vous n'êtes que deux, mais globalement, ça rassemble combien de personnes ?
Alors, pendant la saison d'accélération, quand on a créé le projet, on avait à peu près une centaine de bénévoles qui étaient mobilisés sur le sujet.
Et ils étaient mobilisés sur quel type de tâches, ces bénévoles, en fait ?
Alors, il y avait plusieurs volets. Il y avait effectivement des personnes très techniques qui allaient travailler à la fois sur la méthodologie ou sur le développement de la librairie Python Ecologit. Et d'autres personnes qui travaillaient sur des sujets un peu plus transverse, comme la communication, l'organisation du projet.
Il y en avait qui documentaient aussi la partie données pour essayer d'améliorer la manière de faire les calculs, potentiellement ?
Oui, il y avait tous les aspects, aussi bien de documentation de la librairie Python, le développement et la conception des outils, puisque on a aussi sorti Ecologist Calculator,
ouais.
Et qui est un outil beaucoup plus grand public.
On va en reparler juste après, effectivement. Mais du coup, aujourd'hui que vous êtes une association, vous cherchez du coup un peu à faire en sorte que ce collectif qui s'est créé continue à vivre. Et c'est du coup les prochaines actions de cette association et de ce collectif, c'est justement de continuer à développer, à sensibiliser sur ce sujet.
Absolument. Le projet Gen AI Impact, dès le départ, c'était un projet qui était destiné à durer.
Ouais.
Et l'idée de faire une association, c'est de pouvoir continuer à développer de nouveaux outils, de continuer à alimenter les librairies Ecologit. On a ecologit.js qui est en cours de développement aussi. On a d'autres projets comme intégrer justement l'embedding dont Samuel parlait.
D'accord.
Et tout ça, on peut pas le faire juste sur des projets d'accélération ponctuelle,
pour
que ce soit quelque chose de continu. C'est pour ça qu'on s'est structuré en association.
Et du coup, cette structure, elle a des cibles, j'imagine, elle a des publics cibles. Qui est-ce qu'on doit convaincre ou sensibiliser? Quel type d'acteur on doit convaincre ou sensibiliser quand on veut faire progresser la manière de gérer l'IA générative?
Alors, j'ai envie de dire tous les acteurs économiques. Ouais. Donc, on s'adresse d'abord aux développeurs via Ecologit.
Oui, via les
outils. Effectivement, ce sont eux qui sont à même de prendre des décisions sur les modèles qui sont plus ou moins gourmands. À travers ces développeurs aussi, on a les acteurs économiques, les entreprises qui sont, ne serait-ce que pour leur image ou pour eux, leur mise en conformité par rapport aux normes environnementales et leur communication sur les impacts, qui ont besoin d'avoir des outils à leur disposition pour faire ces calculs. Et aussi, on s'adresse au grand public, parce que justement, l'une des différences avec les IA plus classiques, c'est que depuis la sortie au grand public de ChatGPT et tous les autres modèles d'IA génératifs, c'est que le grand public se l'approprie. Et oui. Donc il y a des vraies questions,
notamment sur la génération d'images, comme on en parlait en introduction.
Exactement.
Avec un humour plus ou moins intéressant à gérer, du coup, avec la génération d'images, de vidéos, alors qui sont pas mal, mais qui du coup on sait pas si c'est vraiment très utile, quoi, en fait, tout simplement.
Effectivement, avant l'IA générative, on avait beaucoup de photos de chats. Maintenant, on a toujours des photos de chats, mais
elles sont générées.
Elles sont générées avec beaucoup d'idées. Et donc, effectivement, il y a cette fascination et cet engouement de plus de créativité. Mais tout ça, c'est stocké sur des serveurs, c'est stocké. Ça a un impact aussi sur l'environnement. Et donc, c'est important que le grand public puisse s'approprier.
Vous essayez de mieux comprendre les IA. J'essaie de mieux comprendre les humains.
Ça faisait longtemps qu'on... Elle est rentrée de vacances aussi, Elisa, du coup. Vous avez une question, peut-être, Elisa?
Tu crois que nous aussi, on pourrait avoir un humour IA?
Ah, voilà. Elle réagit à notre questionnement sur l'humour et sur l'humour généré par les IA génératives. Est-ce que vous pensez qu'il y a un humour IA? Est-ce que c'est... Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de cet humour IA?
Alors moi, je pense qu'il y a un humour IA, mais c'est un humour qui est assez biaisé,
ouais.
Comme les données qui alimentent les modèles d'IA générative. Donc,
Et vous pensez que c'est un humour qui a de l'avenir?
J'espère que non, parce que je pense que c'est un humour très masculin.
D'accord, ouais, très bien. Et au-delà de ça, dans sa conséquence environnementale, cet humour-là, il vous inspire quoi?
Alors sur les impacts environnementaux, effectivement, je pense que cet humour-là n'est pas nécessairement bon pour la planète.
Oui, c'est ça. Pas très constructif, globalement. Très bien. Mais j'espère que ça va pas froisser Elisa de comprendre que son humour IA a des grosses conséquences sur la planète. On parlait justement de la liaison entre la sensibilisation des acteurs et des utilisateurs et aujourd'hui leurs obligations environnementales. Est-ce que vous pensez que on est sur une démarche qui finira par rentrer avec encore une fois des specs comme celle de l'IA frugale, avec vos outils, avec vos sensibilisations? Est-ce que c'est quelque chose où on va pouvoir finalement, alors je pose la question à tous les deux, vous pouvoir rentrer dans une logique un peu plus normative où les entreprises vont être obligées finalement de se poser ces questions-là dans leur développement? Peut-être Caroline, si vous avez...
Alors je pense que oui, parce que effectivement avec les normes, ne serait-ce que la CSRD, en tout cas l'Europe pour le coup est vraiment précurseur là-dessus.
Alors CSRD, il faut traduire du coup, qu'est-ce que du coup c'est la norme européenne qui permet justement de se poser des questions sur les éléments environnementaux.
Voilà, qui va obliger les entreprises à faire un reporting extra-financier sur leur impact environnementaux.
Et on pourrait y glisser des questions sur leur manière de développer l'IA, quoi.
Et vu que l'IA va s'intégrer dans de plus en plus de produits et que toutes les entreprises cherchent à intégrer l'IA, il n'y a pas de raison que les entreprises cherchent aussi à communiquer sur les impacts environnementaux de leurs produits qui intègrent les IA génératives.
Sur leur bonne manière de travailler avec l'IA. Vous vouliez compléter, Samuel ?
Éventuellement, oui. Je pense que ça va quand même relativement dans le bon sens. On voit les cloud providers un petit peu, par exemple, s'emparer du sujet, créer des calculettes carbone. Alors, elles ont beaucoup de défauts, elles sont pas parfaites, etc. Mais en tout cas, il y a un petit peu d'évolution. On peut essayer d'être un peu optimiste. ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un vrai acteur de l'IA générative, comme un OpenAI, un Mistral, un Anthropique.
Totalement qui, transparent de ce point de vue-là.
Qui soit transparent sur ce point de vue, qui publie des chiffres, ce serait super.
Il faudrait qu'on propose ça à Skyway, non? C'est l'acteur français justement qui fait de l'hébergement et qui pourrait du coup, un peu comme Hugging Face finalement, avoir des éléments de comptage de ce qui se passe sur ces serveurs. Ça pourrait être intéressant. Et du coup, pour pouvoir le faire, il faut des outils. Et il faut des librairies. Et puis il faut des JS, tout ce qu'on a évoqué. Alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur étagère et qu'est-ce que vous projetez comme outil à proposer à la communauté des développeurs IA?
Alors donc aujourd'hui on a une librairie Python qui permet donc de s'intégrer avec les projets déjà existants pour ajouter le calcul d'impact.
Ouais.
On prévoit...
Ça marche comment? Moi, j'y connais rien. Encore une fois, comme avec votre grand-mère, c'est-à-dire que c'est une librairie que vous pouvez appeler en plein milieu de votre code IA et qui va d'elle-même, finalement, comprendre ce qui est en jeu, ce qui est en train de se jouer en termes de consommation.
C'est ça. C'est même encore plus simple que ça. En fait, on fait un appel au début.
Ouais.
On dit, j'initialise, j'active EcoLogit. Et après, EcoLogit va être capable, la librairie, d'intercepter les appels qui sont faits à un serveur et de regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette requête, de dire les impacts de cette requête, ça va être temps. Et de
d'accord,
remonter
capteur,
cette information.
En fait.
Oui, complètement.
D'accord. Donc ça, c'est ce qui existe déjà. C'est disponible. Donc,
déjà.
Chers développeurs IA qui nous écoutez, n'hésitez pas à venir utiliser cette librairie pour vos prochains développements. Et qu'est-ce que vous projetez de créer?
Eh bien, cette même librairie, mais dans un autre langage, JavaScript. Donc cette fois, qui va peut-être s'adresser, par exemple, aux développeurs web. Donc ceux qui font des interfaces ou des chatbots dans les applications web pourront aussi ajouter l'impact. Et Caroline l'a mentionné, on a aussi sorti un calculateur plus grand public pour essayer de sensibiliser sur les impacts d'une requête classique. Si je fais écrire un mail ou un post LinkedIn ou un rapport par une IA générative, c'est quoi concrètement comme impact? Et aussi des équivalents, est-ce que c'est équivalent à courir 100 mètres, 1 km par rapport à l'énergie dépensée par la machine qui a produit le résultat? Donc, ça permet de se projeter. Ouais.
Ça prend quelle forme ça? C'est une extension de navigateur, c'est quoi?
Aujourd'hui, c'est une application web et demain, peut-être un plugin navigateur sur ChatGPT. On a beaucoup d'idées sur le domaine et on recherche beaucoup de contributeurs pour nous aider à répandre ces outils et à les développer et atteindre un plus grand public.
Ouais. Du coup, avec l'aspect IA Frugal, on a vu que beaucoup de choses se jouent dans la méthode de développement, dans les questionnements que l'on se pose aux différentes étapes du cycle de vie de l'outil IA. Du coup, on peut imaginer que dans les différentes étapes, on puisse glisser ces différents outils dès le début ou c'est vraiment réservé au moment où on développe?
Alors non, en fait, il y a beaucoup d'outils, plusieurs outils et qui répondent en fait à chaque fois à certaines problématiques différentes. On parlait de code carbone, ça va être sur de la mesure au moment de l'entraînement ou de l'exécution d'un modèle. EcoLogit, ça va être sur l'utilisation par un développeur d'une API, donc d'un serveur distant. Il va y avoir aussi des outils de modélisation. Je pense que dans la FnurSpec, il y avait Green Algorithm, qui est un calculateur pareil qui permet de modéliser les impacts en amont, avant d'avoir fait un calcul. Donc, ce qui permet d'anticiper, quand on développe de l'IA en entreprise, d'anticiper les impacts potentiellement.
Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour. C'est le moment de conclure. Si on doit conclure et qu'on doit venir vous aider, on a envie là. Ça y est, vous nous avez donné envie de venir vous contribuer. De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Et c'est quoi les prochaines étapes de votre grand projet?
Alors, aujourd'hui, on a besoin de contributeurs. Donc, si vous êtes développeur, n'hésitez pas à nous rejoindre pour essayer d'enrichir les outils. Si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez aussi venir nous rejoindre. Je pense qu'on a toujours besoin de...
Il y a plein de missions différentes.
On a plein de missions différentes qui sont aussi pas techniques. Donc, c'est important de le rappeler. Et après, je ferai peut-être un appel peut-être aux entreprises qui sont sensibles à ça, qui souhaiteraient utiliser nos solutions, peut-être éventuellement essayer de nous rejoindre, voire même d'essayer de financer le projet et les avancées et le support de ce projet.
Donc un peu de sponsoring, un peu de subvention, de partenariat avec des entreprises qui voudraient s'afficher aussi dans de bonnes conditions vis-à-vis de leur exploitation de projet IA. Ok, je crois que le message est passé. Merci beaucoup Caroline et Samuel de nous avoir fait découvrir vos objectifs et vos travaux. Donc si on veut s'engager avec vous et utiliser vos outils, on vous retrouve sur genai-impact.org, si j'ai bien noté. Merci beaucoup.
Merci.
Et n'oubliez pas de liker cet épisode parce que ça manipule l'algorithme et c'est cool de manipuler les algorithmes. Allez, restez sur 93.1 FM Cause Commune et avec tous les programmes de Cause Commune. À bientôt.